Salut à toi. Aujourd'hui, on reçoit Grégory. Si toi aussi tu veux savoir comment un artiste est devenu propriétaire de son temps, ça commence maintenant.
Donc, commençons par le commencement. Comment ça va?
Ben, bonjour Ziad, ça va très bien, merci. Je te remercie de m'accueillir dans ton émission.
Écoute, ça fait plaisir, tellement plaisir que même mon chat vient nous dire bonjour. Puis je te remercie, tu te rappelles de mon prénom. Yes! Donc je vais pouvoir mettre une petite coche. Donc commençons par le commencement. Grégory, qui es-tu pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore?
Alors, je suis un entrepreneur dans le domaine du Web3. J'ai créé une société qui s'appelle Ace Good, ACE Good. Ça veut dire Art, Culture, Entertainment. Et pourquoi Good? Parce que je propose des solutions blockchain à tous les acteurs de ces secteurs pour leur simplifier la vie. Donc, le slogan que j'utilise, c'est You Simply Better, parce que les gens qui vont utiliser les solutions que je leur proposer vont généralement travailler moins, gagner plus, posséder mieux leur propriété intellectuelle, détenir leur argent et toutes les solutions Web3 diverses et variées qui pourraient exister dans ce domaine assez large, qui sont l'art, la culture et l'entertainment.
D'ailleurs, c'est par ce biais-là, le Web3, qu'on s'est connus et rencontrés. Mais commençons par le commencement, parce qu'on a déjà bu deux, trois cafés virtuels, slash deux, trois rencontres. Tu as parlé de art, de l'art.
Absolument.
Mais si je ne me trompe pas, l'art, c'est quand même une bonne partie de ta vie.
Absolument. Et c'est même une grande passion parce que je suis moi-même artiste dans l'âme. Alors j'ai commencé quand j'étais tout petit où je pratiquais d'abord les arts de la scène où je faisais du théâtre. J'ai fait du théâtre pendant une grosse quinzaine d'années.
Wow.
Ça m'a amené à faire des matchs d'improvisation pendant 6 ans. J'ai joué dans des troupes semi-professionnelles où j'étais à la fois auteur et à la fois comédien. Et ensuite, j'ai eu des cachets professionnels en tant qu'intermittent du spectacle pour du cinéma. Et ma dernière expérience, c'était très drôle d'ailleurs parce que j'étais figurant, enfin un tout petit rôle dans le film Voir la mère de Patrice Lecomte. Donc ça se tournait à Biarritz et en fait je jouais le rôle d'un cascadeur qui avait un bras cassé, donc on m'avait mis un faux plâtre si tu veux sur le bras et j'ai tourné pendant une semaine en pleine canicule au mois d'août avec mon plâtre, donc c'était pas hyper agréable. Et en gros mon personnage rencontre le personnage principal et comme moi j'ai mon bras cassé, je lui demande de faire des cascades avec moi s'il veut et je lui prête ma voiture parce qu'en fait je peux pas conduire parce qu'il a besoin d'une voiture. Et donc on pratique le tournage pendant une semaine. Parce que je devais être là pendant une semaine, le tournage a été, pour moi c'était seulement quelques heures, mais comme on devait s'adapter en fonction de la météo, j'avais besoin d'être là au cas où. Quand le tournage s'est terminé, le premier assistant m'a accompagné à l'hôpital pour m'enlever le plâtre. Il a dit, bon voilà, c'est pour enlever un plâtre. Alors les médecins disent, non, on ne peut pas enlever un plâtre comme ça, il nous faut une ordonnance. Il dit, non, mais c'est pour le tournage de Patrice Lecomte. C'est pour... D'accord, tout de suite, ils m'ont pris, ils m'ont enlevé le tournage. Dit, mais dites bien, Patrice Lecomte, qu'on aime bien ses films et tout. Alors super, j'ai gardé le plâtre en souvenir. Et quand le film est sorti, je suis parti le voir en salle et en fait, on ne voit pas le plâtre à l'écran. Voilà.
Bah, écoute, dis-toi au moins qu'on te voit toi. T'sais, au
Exactement.
niveau,
Ça
c'est
a été
ça.
cadré, on voit juste ma tête qui parle, mais y a pas, ils ont enlevé cette idée de script au plâtre. D'ailleurs, mon personnage s'appelle Bras Cassé, je n'avais même pas juste un nom. Et donc, du coup, ça n'a plus de sens que je m'appelle Bras Cassé puisqu'il n'y avait même pas de plâtre qui apparaissait à l'écran.
Waouh, ça me rappelle plein d'histoires. Mais commençons par le commencement. Est-ce
Donc
que
ça,
tu viens d'une famille?
le
C'est ça?
film, c'était vers, je l'ai tourné, je crois, en 2012.
Ok.
Et donc en 2013, j'habitais le sud-ouest de la France. J'ai quitté Pau pour venir vivre en Belgique. Et ça faisait déjà, en fait, entre 2009 et 2013, j'étais déjà très actif dans une association de culture hip-hop qui s'appelait Gare Urbaine. Donc j'organisais des ateliers d'écriture, parce que moi j'étais même rappeur aussi à l'époque. Donc à la base, je venais juste rapper dans une émission radio qu'on avait créée. Puis on accueillait tous les rappeurs en fait de la ville. On s'est rendu compte que la plupart des rappeurs n'avaient pas forcément d'éducation culturelle et hip-hop. Tu vois, c'est
Oui.
genre tu passes une genre il y a des rappeurs, des jeunes qui venaient, on vous dit on va les mettre bien, les gars, on vous dit on vous met une face B du Wu-Tang, ça va pour votre freestyle. Ils disent quoi, Wu-Tang, c'est quoi ça? Et puis là, on dit ouais, ok, il y a peut-être un truc à travailler. Et donc on a fait des ateliers d'écriture, on a organisé des festivals, on a organisé des sessions de coaching studio, coaching scénique. On organisait plein de battles de danse, des battles rap, des concerts. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, de façon, on va dire, semi-pro. Et j'ai commencé vraiment pro en 2013 en Belgique, où là, j'ai travaillé avec plusieurs festivals connus, des artistes connus. Donc, j'ai été jusqu'à programmer des légendes du hip-hop comme Curtis Blow, DJ Cooler, Afrika Bambaataa,
Wow.
et des superstars comme Rick Ross, par exemple, où j'ai travaillé avec des artistes français comme Assassin, comme De Balle de Neige, comme Edelic. Ouais, j'ai fait de l'underground, j'ai tout fait jusqu'à 2019-2020, ou là, en fait, 2020 plutôt, où il y a eu le Covid, j'ai eu plus le droit de travailler. Et donc, j'étais déjà sur un projet Web3 qui s'appelle Selfbar, et puis j'ai eu l'idée de pousser l'idée un peu plus loin en me disant je vais pouvoir proposer des vrais services Web3 pour les artistes. Et voilà, et ça se développe petit à petit. Et depuis qu'on a été déconfiné début 2022, on a recommencé à faire des événements. On fait participer à beaucoup d'événements en termes de keynote, des podcasts aussi, des émissions TV pour expliquer un peu ce qu'on fait. Et là, réellement, on commence à avoir des premiers cas d'usage, donc ce qu'on appelle des POC, hein, des Proof of Concept, pour montrer que ça marche. Et maintenant, on a le produit qui fonctionne tout à fait. Il y a pas mal d'artistes qui vont commencer à travailler avec nous à partir de 2024.
Waouh! Maintenant, j'espère que tout le monde a compris pourquoi je voulais tendre le micro à Grégory. C'est terrible, Grégory. J'ai chaque fois envie de t'appeler Greg, mais ça se fait pas. Donc, ça sera Monsieur Montfort. Monsieur Montfort,
C'est
c'est
Greg,
un
ça
sacré.
va.
C'est ça, non, je dis, c'est un, je vais t'appeler Mister G. le folio. Bref, revenons au professionnel que je ne suis pas. Donc, Monsieur Montfort. Sacré parcours, mais est-ce que tu viens d'une famille d'artistes ou tu es le mouton noir de la famille?
Ah, je pense que je suis le mouton noir parce que mes parents n'étaient pas portés sur l'artistique. En fait, mes parents, c'est deux personnes issues de la classe moyenne française qui ont même pas été au, ils ont même pas eu le baccalauréat. C'était des baby boomers, donc si tu veux, à l'époque, tu trouvais du travail très facilement. Donc ma mère,
Okay.
je crois, elle a eu un CAP secrétariat et elle a été embauchée dans deux, trois boîtes. Et elle a fini chez Elf Aquitaine, qui est maintenant devenue Total. Maintenant, elle est retraitée, mais en gros, elle avait un super salaire et plein d'avantages alors qu'elle n'avait pas fait d'études. Et mon père, il a fait l'armée dans la marine dans les années 60. Puis ensuite, il a tout de suite été embauché chez Elf Aquitaine. Ils se sont rencontrés là-bas. Et dans une mission, ils sont partis vivre à Pau, et moi je suis né là-bas, quoi. Donc je suis le premier artiste vraiment de la famille, et je suis aussi le premier entrepreneur, quoi. Même si mon grand-père avait une société en bâtiment, donc mon grand-père paternel avait une société dans le bâtiment à Oran en Algérie, puisque mon père est pied noir, mais j'en sais pas plus que ça, puisqu'il est mort pendant la guerre d'Algérie, donc je ne l'ai même pas connu. Et bon, j'imagine que ça a peut-être sauté une génération, mais effectivement, je suis un peu le mouton noir. Et donc ça a été déjà au début compliqué de leur dire je veux vivre de la musique et je veux faire du théâtre. Donc à la rigueur, vas-y, hein, on t'encourage, on voit que tu es doué pour ça et puis on espère que ça marche. Et après, quand on leur dit maintenant j'arrête, je veux faire de la blockchain, du Web3, je suis dans l'entrepreneuriat, écoute, eux ils ont prié dans leur coin en espérant que ça marche. Et puis ils voient finalement que ça fonctionne et que je suis assez doué dans ce que je fais. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui mêlent une vraie expérience Web3 avec une vraie expérience artistique. Donc je suis un peu un des seuls à faire ça, et tant mieux parce que ça me permet de me démarquer. J'aime bien être en dehors des clous et penser hors cadre, c'est tout à fait moi.
Je veux dire, c'est pas par hasard que tu es dans ce podcast-là. Je reviendrai justement après sur les valeurs que t'as, qui t'ont amené justement à S Good et j'ai dit à l'idée de Self Bar et un peu tout ton univers. Mais juste avant, une réflexion que je me faisais, c'est vrai que j'ai utilisé le terme mouton noir, mais en fait, on devrait parler de future licorne, de. Il faudrait réinventer cette expression, parce qu'en fait, maintenant que devenir entrepreneur, solopreneur, c'est puis évidemment son pendant féminin ou autre genre, c'est devenu un nouveau vent d'espoir et de liberté.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a amené vers cette voie-là? T'sais, si ce n'est pas la famille, si ce n'est pas les proches, si ce n'est pas. Qu'est-ce qui t'a fait c'est des rencontres, c'est le hasard, c'est.
L'entrepreneuriat, je l'ai un peu découvert par défaut, très honnêtement, parce que moi, j'étais très centré sur à la base être employé. D'ailleurs, entre guillemets, mon business model, j'en avais pas réellement, mais quand j'étais à l'époque de l'association Gare Urbaine à Pau, l'idée c'était, je faisais vraiment du business développement, mais sans le savoir, parce que j'étais vice-président de l'association, et donc on faisait rentrer beaucoup de sous avec des prestations. J'ai créé énormément de choses, j'ai créé des formations à culture hip-hop pour les formateurs professionnels dans le milieu du social. Donc j'avais des formations pour les éducateurs spécialisés, pour des psys, pour des animateurs, pour des directeurs. Enfin, j'avais créé plein de concepts, mais on les monétisait, mais tout l'argent rentrait dans l'association, et nous, après, on voulait simplement être salarié de l'association. Donc, tu vois, j'étais encore une fois salarié parce qu'il n'y avait pas l'éducation financière derrière. Et quand je suis arrivé en Belgique, en fait, j'avais pas le droit à avoir des aides pour le chômage ou autre. Donc, j'ai dû me débrouiller tout seul. Et donc, les seules entreprises qui ont accepté de m'embaucher, c'était ceux qui recherchaient des commerciaux freelance indépendants payés au résultat. Donc je me suis inscrit en tant qu'indépendant et là j'ai commencé à comprendre que je travaillais pour moi-même et que c'était dur parce que si tu fais pas de clients, tu gagnes pas ta vie. Donc j'ai dû me former, j'ai fait ça avec différentes entreprises où j'ai appris la relation client, les entretiens de vente, le démarchage téléphonique, différentes choses. Mais ça m'a, si tu veux, appris à travailler pour moi-même, à développer mon propre mindset, quoi. Et à côté de ça, petit à petit, j'ai commencé à monter. À travailler avec une agence de booking qu'on a relancée et à développer toutes mes activités hip-hop. Donc là aussi, j'étais payé en tant qu'indépendant, puisque du coup, j'avais le même numéro de TVA et je facturais. Et à force, ben voilà, j'ai commencé à m'intéresser. Je me rendais compte que, on va dire, de 2015 à 2019, peut-être même un peu avant, mais pendant 4-5 ans, je travaillais certes à mon compte, mais je gagnais pareil qu'un salarié et j'étais obligé de tout le temps travailler pour gagner de l'argent parce qu'il fallait trouver des clients, relancer, et ainsi de suite. Donc, je n'avais pas automatisé des process qui permettaient de gagner ma vie avec des revenus passifs, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la blockchain, l'entrepreneuriat, et me dire qu'il faut déléguer, il faut mettre en place des choses, il faut scaler, dupliquer pour plus avoir à échanger son temps contre de l'argent et surtout devenir propriétaire de son temps. C'est ça qui m'intéresse, c'est que je ne veux pas devenir propriétaire de ma maison, de ma voiture, comme voudraient mes parents ou beaucoup de personnes. Moi, je veux devenir propriétaire de mon temps. Et donc, j'ai commencé à faire ça en 2019, on m'a proposé un CDI parce que j'avais un CDD à mi-temps avec lequel je développais ma boîte à côté. J'ai tout lâché pour me dire non, je gère mon emploi du temps, je gère mes clients, je fais ce que je veux. Si je veux passer du temps avec ma fille, je passe du temps avec ma fille. Si je veux aller voir un client, je vois un client. Si c'est du travail administratif et que je veux le faire à 22h, je le fais à 22h. Donc, j'ai commencé à organiser mon temps et être propriétaire de mon temps. Et là, c'est déjà une première liberté. Et du coup, tu passes ton temps à faire ce que tu aimes. Ce qui est déjà un premier pas vers le bonheur, entre guillemets. Et une fois que tu arrives à plus avoir besoin de faire des bullshit jobs, parce que j'en ai fait à côté pour devoir payer les factures, bah, ça devient encore mieux. Donc là, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place pour 2024, pour pouvoir se dire on est autosuffisant et du coup, on est indépendant. Et ça, c'est une des valeurs que je défends le plus dans Is Good. Il y a quatre valeurs qui sont solidarité, générosité, excellence et indépendance. Et je veux vraiment. Quand moi je mets à disposition des outils pour mes partenaires ou mes clients, c'est aussi pour leur conserver une certaine indépendance d'un point de vue financier, mais aussi dans le milieu culturel, il y a beaucoup de personnes, en tout cas en France ou en Belgique, qui dépendent des subventions de l'État. Et
Oui.
s'ils n'ont pas les subventions, ils ne font pas leurs événements et ainsi de suite. Là, sur le diamant, si tu es autosuffisant financièrement, pourquoi tu as besoin d'avoir des subventions? Tu fais tes événements et tu vas générer ton trafic et ton public, quoi. Donc, c'est intéressant aussi pour les artistes d'être indépendants, pour ne pas dépendre des majors, pour ne pas dépendre de plein de subventions aussi. Ça peut être tout ce qui est infrastructure institutionnelle. Donc, moi, pour moi, c'est l'indépendance, c'est très important. L'excellence, c'est aussi quelque chose d'important parce que j'essaye d'être le meilleur dans ce que je fais et surtout, je propose les meilleurs services. Donc, par exemple, quand je vais proposer du sel bar à mes clients, c'est parce que je sais et j'en suis convaincu que c'est le meilleur service qu'ils pourraient avoir pour le débit de boisson. Mais je pourrais leur proposer d'autres types de services qui je considère être le meilleur pour eux. Et les autres valeurs que je mets en avant, qui sont vraiment les core values, hein, de ma société, c'est la générosité et la solidarité. La solidarité, c'est parce qu'en fait, on ne vend rien. On ne propose que des services qui sont gratuits et qui vont avoir un impact sur le chiffre d'affaires de nos clients. Et nous, sur lesquels on va prendre une commission sur le chiffre d'affaires généré, sur le surplus, tu vois. Et donc, on considère que c'est la solidarité parce que notre business model, c'est de venir résoudre les problèmes des clients. Et parce qu'ils ont moins de problèmes, ils gagnent mieux leur vie, sur lesquels on prend une commission. Donc, on n'est pas là pour vendre, on ne fait pas de la vente forcée. Ce n'est pas mon intérêt, sinon la personne, je ne vais pas être payé. Et la générosité, parce que je considère qu'il faut d'abord donner avant de recevoir. Et aussi, quand tu travailles dans l'événementiel, en fait, tu ne comptes pas tes heures. Tu vois, quand tu es avec des artistes, tu finis le concert à 1 h, les artistes, ils veulent aller manger un bout. Je leur dis pas, allez vous faire foutre, c'est bon, je rentre chez moi, il est 1 h du matin. Non, on va manger un bout. Et puis, des fois, on rentre à 4 h ou 5 h. En fait, on ne compte pas les heures parce qu'il y a l'humain avant tout. Pour moi, il faut donner avant de recevoir. Et donc, je me mets en avant aussi. Personnellement, j'incarne ces valeurs-là et je veux que mes équipes et mes employés incarnent ces valeurs à terme. Voilà.
J'essaie de trouver un autre argumentaire que waouh. Encore une fois, merci pour ce partage. Puis toute cette sincérité, en même temps, j'en attendais pas moins. Est-ce que tu as l'impression d'être dans l'air du temps avec cette philosophie ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que le Web 3, c'est nouveau, il y a l'innovation, donc on a vraiment, même j'ai l'impression d'être des fois un peu up to date. Mais d'un autre côté, les valeurs qu'on défend, elles sont universelles. Et en fait, c'est simplement des fois des cycles qui se renouvellent. Et en gros, je suis rentré dans le Web 3 pour les mêmes raisons que je suis rentré dans la culture hip-hop, à savoir les valeurs de pouvoir améliorer le quotidien. Moi, j'étais carrément affilié à la Zulu Nation. Donc, si tu veux, il y avait Peace, Love, Unity, Having Fun, transformer le négatif en positif. Donc, il y avait toutes ces valeurs-là. Et je me rends compte que tout ce qui m'a fait petit à petit quitter la culture hip-hop et la Zulu Nation, c'est des choses qui étaient liées à la centralisation, à un manque d'authenticité, à un manque de vérification, qui auraient pu totalement être améliorées grâce au Web 3. Donc en fait, on va simplement reprendre des principes de base, on ne va pas réinventer la roue, on va simplement améliorer un petit process grâce à une nouvelle technologie, une innovation. Donc c'est un petit peu incrémental ce qu'on fait. Et donc je n'ai vraiment pas l'impression de réinventer quelque chose. Je vais autant m'inspirer de personnes comme Martin Luther ou comme Gandhi pour les grands principes, tu vois, même si c'est très cliché de dire ça, que des personnes comme Steve Jobs sur l'entrepreneuriat ou la façon de pitcher. Sur des gens, tu vois, un mec comme Schwarzenegger, le côté je pars de rien, tout est possible, ça va m'inspirer. Et je peux m'inspirer aussi d'autres personnes qui sont plutôt des pratiquants religieux qui sont vraiment dans le don de soi. Et ça aussi, ça m'inspire énormément. J'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui sont musulmans sur... Je suis moi-même musulman, hein, mais beaucoup d'amis qui sont musulmans sur Bruxelles. Et en fait, pendant le confinement, Molenbeek était la ville, tu vois, un petit peu identifiée radico-religieuse sur Bruxelles, en tout cas pour les Français. C'est la ville qu'elle développait le plus d'entraide en Belgique. Et il y avait tous les jours des centaines et des centaines de personnes qui allaient livrer à manger pour des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, qui étaient en incapacité, pour qu'ils aient accès à de l'eau, des soins, à manger ou même une présence physique. Et ils ont fait ça tous les jours, à n'importe quelle heure de leur journée, juste parce qu'ils estimaient qu'en tant que musulmans, c'était le devoir d'aller aider les autres. Et ils ont fait ça pendant des mois, sans rien attendre en retour, sans aucune médiatisation. Ils n'ont pas dit « regardez, on le fait », ils le font. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et ça, c'est des gens qui m'ont énormément inspiré, quoi. C'est des héros de tous les jours que j'ai envie de mettre en valeur, qui sont pour moi autant importants qu'un Martin Luther ou qu'un Gandhi, parce que ils ont donné sans rien en recevoir en retour. Et c'est ça que j'ai aussi envie d'incarner au sein de l'entreprise, quoi.
Encore une fois, merci. Puis je te rejoins sur énormément de points et sur cette idée de donner au suivant. Tu as une très belle incarnation de l'entrepreneur éveillé d'aujourd'hui. J'aime le terme éveillé, pas en termes, tu as une illumination, mais tu sais, conscient de la game qu'on joue. Parce qu'il y a eu, ces 10 dernières années, tu sais, il y a eu le buzz de l'entrepreneuriat, surtout en France et puis dans l'Europe francophone, avec l'équivalent des dragons, c'était « Veux-tu être mon associé ?» tu sais, les nouvelles licornes, la French Tech, etc. Mais c'était surtout des coups de com', plus que des vraies licornes ou des réussites. Puis tout le monde voulait devenir entrepreneur, comme tout le monde veut devenir influenceur. Ben, ça semblait facile, puis ça semblait rapporter beaucoup. Comment t'as vécu cette période-là où t'es passé de être entrepreneur, c'est pas une vie, à être entrepreneur, tu vas forcément devenir le nouveau Elon Musk. même s'il n'était pas encore à la mode à l'époque.
Il y a quand même beaucoup de rencontres et c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu essayer d'avoir un impact autour de soi, mais tu vois, quand je faisais des ateliers d'écriture, je touchais quelques jeunes et c'était simplement un impact peut-être sur leur conscience, sur leur façon de penser. Et quand j'ai découvert Vincent Calbeau, qui est le CEO de Cellbar, qui lui, en fait, avait réussi à automatiser le don caritatif sur des distributeurs et les co-responsabilités, je me dis, en fait, la blockchain, on peut automatiser des choses, des process. Et surtout avoir un impact à grande échelle. Et c'est là qu'en fait j'ai compris que l'éthique, c'est quelque chose de très important pour pour moi les prochaines licornes, parce que les entreprises qui n'ont pas un impact écologique, qui n'ont pas un impact social, même si c'est des grosses boîtes, hein, ça pourrait être un Apple, McDonald's ou quoi, elles vont perdre des parts de marché au fur et à mesure, parce que les gens, ils ont conscience que le monde y part en live et qu'ils ont besoin d'améliorer leur quotidien, ils veulent quelque chose de concret, ils veulent quelque chose de palpable, ils veulent pouvoir se dire c'est mesurable, j'ai fait une bonne action dans le simple fait d'avoir consommé au quotidien, dans ma vie de tous les jours. Et s'il y a une entreprise qui me permet de faire ça, alors je vais consommer dans cette entreprise-là. Et consommer responsable, c'est devenu quelque chose de très important. Et aujourd'hui, McDo elle a bien compris parce que McDo commence à faire du tri sélectif dans ses restaurants, tu vois. Mais parce qu'ils ont bien compris que sinon ils vont perdre des parts de marché. Et les gens après, quand tu vas boycotter, enfin, je crois que c'était en Espagne, il y a eu un gros boycott qui avait été fait sur Coca-Cola il y a quelques années. Ils avaient perdu 25 ou 30% de parts de marché en l'espace d'un mois, quoi. Et donc ça reste des colosses au pied d'argile. Et quand je vois par exemple la société de Jessica Alba qui s'appelle The Honest Company, en fait c'est une boîte de produits cosmétiques mais qui teste pas les produits cosmétiques sur des animaux. Mais aujourd'hui, avec le temps, c'est une boîte qui est cotée à plus d'1 milliard et elle est milliardaire. Pourquoi? Mais parce qu'elle a mis ce côté en avant éthique de faire compagnie. Donc c'est un exemple de me dire, tu peux être une licorne, avoir une boîte avec une méga croissance, même si c'est pas un objectif pour moi d'être une licorne, mais tu peux avoir un très très grand marché parce que ces valeurs universelles-là, éthiques, elles sont partagées par tous les gens dans le monde entier. Donc du coup, c'est universel et c'est ça les core values qu'on veut mettre en avant. On va l'automatiser dans des process blockchain, dans des produits de consommation courante de la vie de tous les jours, comme prendre un ticket de restaurant, prendre un verre, acheter un disque, ce genre de choses. Et ça peut avoir un impact derrière.
Tu m'amènes pas mal de réflexions, puis je sais que tu es un gars réfléchi, mais j'ai le goût de te poser une question qui est un peu conne à la base, mais on va aller un petit peu plus loin. C'est bien, tu viens du monde du rap, tu es entrepreneur, tu penses quoi du diktat de l'argent? Parce que les rappeurs, les entrepreneurs, c'est un peu comme les parents, hein, c'est fais du cash et tais-toi.
Ouais, mais alors dans le, alors il y a le rap et le hip-hop, hein. Le hip-hop, la culture, en fait à la base, on c'est pas forcément fait pour faire de l'argent. D'ailleurs, il y a plein de labels indépendants qui disent on arrive à vendre, à vivre de notre musique, mais on s'en fiche de devenir multimillionnaire. Et en fait, c'est un petit peu comme partout. On le voit aussi beaucoup dans le foot aujourd'hui. Il y a le foot business, il y a ceux qui vont préférer le football pour le sport et d'autres qui vont
Oui.
choisir le football pour l'argent. Ben, dans le rap, c'est un peu la même chose. T'as des rappeurs qui sont très centrés sur la culture, donc ils ont envie d'être le meilleur rappeur. D'ailleurs, c'est souvent eux hein, qui ont les plus grosses carrières. Pense à un mec comme Nekfeu ou PNL, ils n'ont pas percé parce qu'ils ont été centrés sur l'argent, ils ont été centrés sur l'artistique avant tout. Nekfeu, l'idée, c'était ben, je fais des rimes que personne n'a jamais fait, j'arrive avec une autre vision du rap et je vais imposer, je vais bosser que sur mes rimes, que sur ma façon de rapper, que sur mon flow. Et ça a marché. Et PNL, ils ont été très très forts sur l'identité visuelle, la communication, amener aussi quelque chose de différent. Ils n'ont jamais pensé à faire de l'argent. Alors que les rappeurs qui pensent qu'à faire de l'argent, ça ne marche pas. C'est comme si tu veux faire un restaurant vegan et tu dis, ouais, j'achète des légumes et je les vends en faisant une marge. Ben non, ça c'est OK, c'est le business model. Mais quelle est la valeur ajoutée que tu apportes? Pourquoi les gens vont t'écouter? Pourquoi les gens vont venir manger chez toi? Et du coup, dans le rap, ben, il y a beaucoup de rap business qui rattaché à l'industrie musicale, où là, en fait, c'est des produits de consommation. On va sortir un album ou juste un titre, puis ça se vend. Mais derrière, il n'y a pas de proposition culturelle, il n'y a pas de proposition artistique. Donc ça fonctionne peut-être le temps d'un single, mais ça ne fait pas une carrière. Et ça, en fait, c'est quelque chose que tout entrepreneur, que la personne soit artiste, sportif, entrepreneur, tu dois vraiment te concentrer sur ton produit, sur ton art, sur ton sport, sur ta qualité. Qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Et d'ailleurs, c'est des conseils que je donnais beaucoup quand je faisais des ateliers dans les écoles. Je disais aux jeunes, vous êtes doué dans quelque chose, c'est sûr et certain. Peut-être que vous ne l'avez pas encore découvert, mais vous avez un don. Dieu vous a donné un don et même vous allez le travailler. Quand vous allez découvrir ça, vous allez découvrir ça, enfin, concentrez-vous sur votre don, travaillez-le, et après vous allez comprendre pourquoi le monétiser. Soit vous allez devenir un grand, grand spécialiste, on va faire appel à vous, on va payer très cher pour être ça. Soit vous allez monter une entreprise, soit vous allez devenir sportif de haut niveau, mais peu importe, vous allez réussir à gagner votre vie avec ça, et surtout, vous allez prendre du plaisir à le faire parce que vous allez être bon et ça va être votre passe-temps, quoi. Donc il faut se concentrer sur ça et après ça se monétise. D'ailleurs, même ChatGPT, hein. ChatGPT, avant de le monétiser, ils ont dit, on va sortir un truc, un produit, c'est de la bombe, et après on voit comment gagner de l'argent avec. Donc c'est ce que je dis, tu vois, c'est pour ça que j'invente rien, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Sois concentré sur être le meilleur, être l'excellence dans ce que tu fais, et après, tu vas très vite trouver comment gagner de l'argent avec.
Tu m'amènes plein de réflexions et je fais le tri. Et comment tu fais pour garder le focus?
Ah ben en fait, ça, c'est des réflexions très personnelles. Alors, il y a d'abord les valeurs que je défends, mais surtout, depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai eu un deuxième enfant. Donc maintenant, je suis papa de deux enfants en bas âge, donc une fille qui va faire 6 ans ce mois-ci, un petit garçon qui a 2 ans. Et donc, j'ai une responsabilité, si tu veux, en tant que parent. Un, déjà, parce qu'il faut à tout prix qu'ils aient à manger tous les mois, donc je suis obligé de charbonner pour ça. Et aussi parce que je veux pouvoir montrer l'exemple à mes enfants. Il y a ce côté lead by example. D'ailleurs, j'ai aussi encouragé ma femme à lâcher son travail pour se lancer dans sa passion qui était la pâtisserie, pour passer une formation de pâtisserie où je me suis occupé des enfants pendant 10 mois. Elle est partie à l'étranger faire une formation. Et en fait, je lui ai dit, il faut à tout prix que les enfants, ils voient que les parents sont épanouis. Le être un bon parent, c'est pas très compliqué en soi, il faut juste être épanoui. Et pour ça, il faut faire ce que tu aimes. Si tu fais un job que tu n'aimes pas, et juste parce que ça te permet de donner à manger à tes enfants, ils vont voir que tu es un père excédé, exécrable, et que tu n'aimes pas ce que tu fais. Ça ne va pas leur donner envie d'aller à l'école et de faire quelque chose qu'ils aiment. Par contre, si toi, tu fais ce que tu kiffes toute la journée, alors eux, ils vont voir que tu es épanoui, ça va leur donner du plaisir, et puis ils vont vouloir faire la même chose. Et donc, ils vont trouver leur voie comme ça, quoi. Et donc, après, ça, c'est basique, hein, mais ça reste vraiment s'épanouir en tant que parent. Et la deuxième des choses, c'est simplement donner des bonnes habitudes. Il n'y a pas de mauvaise éducation, il n'y a que des bonnes ou des mauvaises habitudes que tu prends. Donc si toi, en tant qu'entrepreneur, en fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un accélérateur de développement personnel. Et donc tu commences à lire des livres sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, sur l'éducation financière. Et après, du coup, en plus de lire, bah, tu l'appliques dans ta vie. Donc tu gères ton agenda, tu gères des petites habitudes tous les jours. Et après, du coup, bah, tu l'appliques à tes enfants. Parce que moi, des fois, quand je veux faire du sport, mes parents me disent OK, enfin, mes enfants me disent OK, super, je vais faire du sport aussi. Donc, ils viennent faire du sport avec moi. Quand mon fils, tu vois, il a 2 ans, mais il adore les légumes verts.
Oui.
Bon, il mange des concombres, des haricots verts, il se rue dessus plus qu'une pizza, quoi. Et j'ai rien fait de spécial, hein. J'en ai juste mangé. Un jour, il a goûté, il me dit ah, mais il en veut à chaque fois. Donc, tu vois, donc c'est un truc qui se fait. Bon, après, il y a plein de trucs qui ne fait pas bien. Hein. Je dis pas, des fois c'est l'enfer, je suis obligé de je pète un câble pour certains trucs. Mais voilà, petit à petit, il y a des bonnes habitudes qui prennent. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer en fait son niveau de vie. Non pas en termes de somme d'argent, mais c'est plutôt en termes de qualité de vie, en se disant pouvoir pas. Prendre 1 heure ou 2 avec ses enfants en journée, ça n'a pas de prix. J'ai la chance d'avoir loupé aucun moment important dans la vie de mes enfants depuis qu'ils sont nés. Et donc, bah, je remercie la vie, je remercie Dieu pour ça. J'exprime ma gratitude. Tu vois, la gratitude, c'est quelque chose d'hyper important parce que ça nous emmène dans quelque chose de positif.
Oui.
Donc, le positif amène le positif et pouvoir remercier sur des petites victoires de tous les jours. C'est hyper important de pouvoir le soir se coucher en disant bah, tout va bien, je suis en bonne santé, j'ai gagné ma vie, j'ai avancé par rapport à ce que j'ai fait. Bah, du coup, c'est très bien, ça me donne la pêche et la motivation pour la journée de demain. Et donc, c'est ça qui va t'apporter, qui va t'amener en tant qu'entrepreneur à pouvoir se dire j'ai fait mes premiers 1 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai gagné mon premier client, j'ai lancé mon site internet. Il n'y a pas de petite victoire, c'est step by step. Et voilà. Et d'ailleurs, j'avais lu un. Il y a une allégorie que j'adore en fait au niveau des habitudes, c'est l'allégorie du bambou. C'était en James Clear qu'il parle dans le livre Atomic Habits. En fait, il dit les bonnes habitudes, c'est les intérêts, t'as les intérêts composés en fait du comportement. Et il dit, c'est des choses qui vont peut-être pas se voir tous les jours. Tu vas faire du sport, lire un livre tous les jours, tu vas pas le voir à court terme. Mais c'est comme le bambou. Le bambou, en fait, quand tu le plantes, tu vas l'arroser tous les jours, ça va pas pousser. Et toi, tu vas dire, oh, c'est quoi ce truc-là? Et pourtant, tu vas continuer à arroser, arroser, arroser. Et un jour, au bout de 5 ans, le bambou, il va prendre 3 mètres en 2 semaines. Et il va même prendre 5-6 mètres. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça pousse d'un coup. Et ça, en fait, c'est les intérêts composés des bonnes habitudes. À force d'avoir des bonnes habitudes qui peuvent être alimentaires, santé, sportive, éducation, financière, ou peu importe, ça va tout d'un coup, tu vas développer des compétences qui vont être bénéfiques pour toi, pour ton entourage, pour ton business, pour ta famille, peu importe. Et donc, c'est pour ça que des disciplines en fait, au quotidien pour des petits gestes, ça peut avoir un impact énorme. Ça change ta vie, ça change ton quotidien.
Toi qui as de l'expérience au niveau des podcasts, je veux dire en tant qu'entrepreneur, c'est quoi la question que tu aurais voulu qu'on te pose, mais qu'on t'a jamais posée à date?
J'ai pas réfléchi de but en blanc, mais en gros, des questions sur. J'aime beaucoup parler en fait des personnes qui m'ont inspiré, ça c'est clair. Le parcours personnel, c'est quelque chose que j'ai jamais abordé, donc c'est bien, tu m'as déjà posé la question. Parce qu'on s'intéresse souvent, si tu veux, aux technologies, aux produits que je propose, mais pas forcément à l'homme qu'il y a derrière, donc ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise question. Pour moi, toutes les questions sont bonnes à poser, donc je suis assez ouvert.
Écoute, la transition est parfaite. Avec toi, je vais inaugurer dans ce podcast-là le segment donné au suivant. Tu parlais justement d'inspiration, de personnes de son entourage ou de références. Est-ce que tu aurais quelqu'un que tu souhaiterais mettre de l'avant ou quelqu'une?
Y a un entrepreneur qui m'a quand même inspiré au tout début, qui était issu du milieu du rap, qui s'appelle Axiom. Donc en fait, il s'appelle Hicham, c'est un rappeur d'origine marocaine qui était lillois. Il a créé un premier groupe dans les fins 90, s'appelait Mental Combat, et ensuite il a signé chez Universal en solo pour son album, je crois que ça va être 2003 ou 2005. Ouais. Il a fait beaucoup de projets engagés autour du hip-hop, et en 2017, il a créé l'application Kicker, qui est un studio d'enregistrement, où tu peux en fait tout de suite créer ton propre studio, ton propre clip depuis ton téléphone et balancer sur les réseaux sociaux. Et ce qui était assez génial, c'est qu'il a repris en fait tous les codes de la culture hip-hop pour le mettre dans une application. Et c'était assez. J'aime beaucoup l'entendre parler parce que il a un vocabulaire en fait quelque part très street, très rappeur, en même temps très entrepreneur porté sur la tech. Et donc tous les cas d'usage de la culture hip-hop, rap, ça a une fonctionnalité technique sur l'application. Ça répond à une demande. Et aujourd'hui, en fait, la culture hip-hop, c'est pas pour rien que c'est la plus demandée. Donc, il a aujourd'hui quand même un réseau social. Kicker, c'est une application, donc c'est un peu comme un réseau social. Il y a plus de 2 millions d'utilisateurs.
Oui.
Donc, c'est quand même pas rien.
Bah oui.
Quand il a créé ça, dans les semaines qui ont suivi, Google leur a mis des bureaux à disposition pour qu'ils puissent tester en bêta-test en Californie le produit. Et il se trouve qu'en fait, moi, j'avais un peu sympathisé avec lui parce qu'on se connaissait et j'ai commencé à faire des... en 2017-2018 sur l'application, je faisais des petits formats qui s'appelaient Hip-Hop School où je parlais de hip-hop et d'un point de vue culturel. Donc pendant que tous les autres rappés voulaient avoir les meilleurs likes pour leur meilleur freestyle, moi en fait je faisais des émissions culturelles et tout, et donc ça, c'était un truc encore une fois hors cadre et c'était assez stylé. Et donc du coup je suis resté en contact avec lui, on est devenus amis. Il le sait hein, qu'il m'a beaucoup inspiré parce que c'est quelqu'un, au milieu des startups en France, venir de la classe populaire, oui. Être un entrepreneur, rappeur marocain qui se présente devant des vicis avec une casquette, qui explique que voilà, le rap, c'est porteur et tout. Tu vois, il en a pris des baffes dans la gueule. Il n'a jamais lâché parce qu'il est déter. Parce qu'en gros, lui, il considère que le rap a déjà ouvert les plus grosses portes. Maintenant, voilà, il y a un premier combat de gagner parce que c'est la musique la plus écoutée par tout le monde, même par les blancs des beaux quartiers. Donc maintenant, le nouveau combat dont doit s'approprier la classe populaire, c'est d'où vient l'argent, comment est distribué l'argent. Et là, en fait, c'est le VC game, c'est les startups.
Oui. Parce
que si tu vas pas, financer les entrepreneurs de demain qui sont tous issus des classes populaires, eh ben, en fait, tu tues le pays, tu tues l'économie du pays. Et donc, c'est ça le vrai combat que lui, il mène aujourd'hui. Et je trouve ça assez charmé comme combat. Donc, il a tout mon respect et ma reconnaissance.
Ah, écoute, on partage ça. Je mettrai les liens que je vais pouvoir trouver pour qu'on puisse aller guigner ce qu'il fait puis lui donner un peu de force. Tu m'amènes de très belles réflexions et je suis très content de voir le Grégory que je connais. Donc, encore un grand merci pour cette transparence puis d'être resté toi-même, et ça fait partie de la personne. Avant, c'est ce que tu avais dit aussi, on parle souvent de technologie, mais il n'y a aucune technologie qui n'est pas portée ou mouvement ou process ou invention par un être humain qui l'incarne et qui l'apporte et qui fait que ça devient utile ou...
Oui, absolument, parce que en fait, la tech pour la tech, ça ne sert à rien. Et les startups qui font de la tech, pour moi, une startup qui vont vraiment percer, c'est quand il y a à la tête, il y a un dirigeant qui est en capacité d'identifier le vrai problème. Oui. Un vrai problème dans un marché, et de dire, OK, on va y répondre avec de la technologie. Mais juste faire de la tech pour la tech, combien de fois j'ai vu des entrepreneurs Web3 pitcher tu vois, pour eux, le point de souffrance était les technologies Web 2 n'arrivent pas à rentrer dans le Web 3. Et ce n'est pas du tout un point de souffrance. Si tu n'as pas le Web 3, tu ne rentres pas dans le Web 3. Et donc, ils font tout un processus pour comment aborder des gens dans le Web 3. Ils commencent à créer des collections d'NFT, des machins qui ne servent à rien. Mais il n'y a pas de point de souffrance, tu vois. Alors, quand moi, j'ai Vincent Calbeau qui me présente Cellbar, il me dit, ben voilà, il y a 22% des boissons qui partent à l'égout. Ça veut dire que chaque année, il y a 50 milliards d'euros de bières qui sont gaspillées. Et moi, je viens de les récupérer juste avec mon système, avec de la tech. Ah ben ok, ça m'intéresse. Tu vois, quand j'ai des artistes qui me disent on s'est fait refuser le dossier de financement parce qu'il n'y a que 20 dossiers qui sont acceptés et qu'on est 50 ou 100 à postuler et que du coup, tout est centralisé, qu'on a besoin de décentraliser le financement, mais je dis ok, on va créer IceFund pour que justement... on puisse vendre des parts de royalties token. Donc, c'est vraiment, tu vends ton chiffre d'affaires futur, des avances sur recettes tokenisées pour décentraliser le financement. Voilà, on a identifié un réel problème et on est capable de mobiliser des bons développeurs et des bons techos pour faire en sorte que trouver un produit à une solution adaptée. Et c'est ça, en fait, le vrai entrepreneuriat dans la tech et dans le Web3 aujourd'hui. C'est être capable que la tech réponde à un vrai besoin. D'ailleurs, sinon, il n'y aura pas d'adoption de masse. Ce n'est pas des vrais besoins, qu'on soit clair.
On va faire une mini-pause ludique, c'est que j'ai appelé l'instant passion, avant évidemment le chef Otaku. Comme on dit, la passion, c'est bien, mais payer ses factures, c'est bien aussi. Donc là, on a entendu parler de Selfpar, de Esgood, on a entendu parler de Grégory, que dis-je, Monsieur Montfort. Comment on fait pour entrer en contact avec toi et avec tout ça?
Alors, il y a plusieurs façons. La meilleure des façons, c'est LinkedIn, parce que c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. J'y vais tous les jours. Je réponds à tous mes messages. Je suis toujours le premier à envoyer un message. Merci de m'avoir ajouté à votre réseau. Et après, il y a des gens qui donnent suite et on peut discuter. Et des fois, il y a des gens qui ne donnent pas suite. Et puis, à partir de certains moments, des fois, je peux les enlever du réseau. Si c'est juste être connecté pour avec moi, ça ne sert à rien. Donc, LinkedIn, c'est la meilleure des raisons. Enfin, la meilleure, plus facile. Sinon, après, des gens qui me connaissent peuvent donner mes contacts, ça arrive. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs dans le Web3 qui partagent un petit peu les mêmes valeurs que moi et qui, en fait, m'appellent en me disant « Tiens, je te mets en relation avec un tel ou un tel » ou tout simplement des gens qui m'appellent en disant « C'est machin qui m'a filé ton numéro, qui m'a donné ton email. » On travaille beaucoup sur un réseau d'entraide, on se renvoie l'ascenseur parce que c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le Web3, c'est qu'il n'y a pas trop de concurrence et de compétition. Il y a beaucoup de collaboration qui se crée. Quand il y a une autre société qui ne fait pas la même chose que nous, on a plutôt envie de comment on peut travailler ensemble, comment on peut collaborer plutôt que comment on peut se piquer des parts de marché. Quoi. Ouais. Cet esprit-là aussi me correspond parfaitement. C'est collaboratif et donc j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui m'envoient des contacts parce que je leur envoie des contacts aussi. Donc, je donne beaucoup avant de recevoir, mais du coup, quand les gens ils savent très bien que je donne, ils m'envoient, ils donnent aussi. Donc, c'est du win-win, donnant-donnant. Je suis très content.
Ben, on reste qui on est.
Absolument.
C'est plus facile. Si tu avais un message à donner au plus grand nombre, même si tu nous as parlé, partagé plein de belles réflexions, tu sais, la fameuse bouteille à la mer à l'ancienne, tu sais, le message au plus grand nombre, même si aujourd'hui ça serait une genre de clé USB dans une bouteille en PET, ce qui fait pas sens.
Pour moi, j'ai l'impression que des fois, dans la population de masse, il y a une certaine fatalité sur on ne peut rien changer au monde. Et donc, ils subissent plutôt leur vie plutôt que d'en être les acteurs. Et j'inviterai les gens justement à s'éduquer parce qu'il existe plein de moyens. La vérité est en chacun de nous, mais le Web3 donne une possibilité. De palettes incroyables. Pas plus tard d'ailleurs que la semaine dernière, je discutais avec une personne qui me dit, ouais, le Web3, ça m'intéresse pas du tout. Et je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, est-ce que tu préfères être responsable de ton argent, de tes données personnelles et de ta propriété intellectuelle, ou est-ce que tu préfères que ce soit une tierce personne qui soit responsable et détenteur de ça? Il m'a dit, ah, moi, il n'y a pas moyen que ce soit quelqu'un d'autre qui gère ça pour moi. Et je lui ai dit, bah, dans ce cas, tu dois t'intéresser fortement au Web3. Et une fois que tu commences à t'éduquer, Web3 ou peu importe, hein, ça peut être, y a plein d'autres alternatives, bah, tu te rends compte qu'il y a plein de solutions possibles et qu'on n'est pas obligé de subir ce que la société nous dit et qu'on peut créer notre propre monde. Il y a des gens qui vont créer des ZAD, il y en a d'autres qui sont des altermondialistes, il y en a d'autres qui vont vivre au Salvador pour payer en Bitcoin, il y en a d'autres qui vont créer leur boîte. En fait, il y a tellement de réponses possibles. Et ça, en fait, c'est aussi quelque chose d'ailleurs que nous enseigne l'école. L'école primaire, scolaire, nous apprend qu'il y a une réponse pour un problème donné. Alors que dans la vie, il y a une multitude de réponses pour un problème donné. Et donc, comment tu peux être en mesure de comprendre ces réponses? Il faut s'éduquer, il faut être curieux. Et tu vas te rendre compte qu'il y a plein, plein, plein de réponses. Et quand même, des fois, tu ne trouves pas la bonne réponse appropriée, bah, tu vas la créer. C'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont dans l'innovation, parce qu'ils disent, tiens, il n'y a pas de réponse. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché peut-être à prendre, il y a un problème. Chaque problème, c'est de la valeur. Donc, derrière chaque problème, en fait, il y a de la valeur. Donc, si moi, je résous ce problème-là, j'apporte de la valeur aux gens. Et donc, tu n'es pas obligé d'être entrepreneur, mais tu peux être entreprenant. Il y a une association, il y a être bénévole. Et donc, tu vas voir que tout ça, c'est très, très important. Donc, informez-vous, éduquez-vous, et vous allez pouvoir trouver 100% des réponses à vos problèmes.
Donc là, appelez-le. Appelez-le. Allez, rentrez en contact avec Grégory, intéressez-vous, suivez-le. Il y a bien plus à découvrir que les quelques minutes que vous allez appréhender là. Puis pour les personnes qui te connaissent, évidemment, elles vont te reconnaître là-dedans. Le temps passe vite, surtout en bonne compagnie, mais il n'y a pas de bonne compagnie qu'il se quitte. J'ai failli faire une devinette en disant, suite à ce que tu as dit, mettez en commentaire dans quel toon il y a la célèbre phrase Le savoir est une arme et je sors toujours armé. Évidemment, c'est du rap français, donc je compte sur vous. Mais on va revenir à quelque chose d'un peu plus fun. Tu sais, dans ce genre d'échange, il y a toujours, quand le micro tombe à off, on se dit, ah oui, mais je voulais aborder tel sujet, je voulais parler de tel truc, puis c'est dommage. C'est pour ça que j'ai créé ce segment. Est-ce que tu veux nous partager une réflexion, quelque chose ou un dernier truc avant les remerciements et le mot de la fin?
Je voudrais simplement partager une expérience qui m'est arrivée il y a 3 semaines avec un ami entrepreneur qui s'appelle Kader Mouloudji, il a créé une société qui s'appelle Metacard, donc c'est la carte cadeau Web3 en NFT. Et en fait, Kader, je l'aime beaucoup parce qu'il incarne en fait la carte cadeau, le cadeau en lui-même. Et on était à la terrasse d'un café à Paris, on prenait simplement un café. Et il y a un sans-abri qui était arrivé pour y aller nous demander de l'argent. Kader, il a vu, il a même pas. Avant que le SDF demande quoi que ce soit, il a donné un billet dans la main. Et il lui a dit voilà, tu peux aller t'acheter ce que tu veux à manger. Et en plus, le gars, il était. Alors, je pense que ça devait être un musulman. Il était, en plus de ça, sous l'effet de l'alcool. Et puis, le gars, elle a vu le billet, il a dit, oh, merci beaucoup. Et alors, Kader, comme il a bien compris qu'il était musulman, il a dit, mais non, en fait, on ne me remercie pas. Remercie Dieu parce que Dieu, il t'aime. Et il dit, et Dieu, il t'aime énormément. Et c'est pour ça qu'il t'a fait passer par là. Il lui a dit, il l'a répété plusieurs fois. Le gars, il a fondu en larmes. parce que en fait on lui avait fait un cadeau. Et en fait, des fois, il y a beaucoup de gens autour de vous qui vont peut-être être des sales cons ou des gens exécrables, alors qu'ils ont juste besoin qu'on soit gentil avec eux, ne serait-ce que 1 minute, qu'on leur donne un cadeau, qu'on leur accorde un sourire. Des fois, le cadeau, c'est juste du temps, tu vois. Et rien que ça peut aider quelqu'un, ça peut transformer quelqu'un, c'est magique. C'est vraiment magique de voir ça. Ça peut être un enfant, tu sais, sur qui tu lui fais un compliment, tu lui donnes de la confiance. Et il va dire, ah super, on m'a jamais dit ça avant, et ça le booste, et puis derrière, il fait une carrière, peu importe. Faut jamais sous-estimer en fait le pouvoir que la bienveillance elle a. Et donc, n'hésitez pas à prendre 1, 2, 3 minutes dans votre vie, dans votre quotidien, pour aider quelqu'un, pour faire un cadeau, même si c'est rien du tout, parce que ça peut avoir des effets incroyables autour de vous, quoi, de votre entourage.
Alors, un grand merci pour ce cadeau.
Bah avec plaisir, franchement, pour avoir vécu ce moment-là, j'étais moi-même très, très ému. Et voilà, Kader, il incarne vraiment le cadeau, la générosité. Et je l'ai. Mais du coup, je l'applique quand je peux. Tu vois, dernièrement, j'ai aidé une dame, enfin, c'est une vieille dame que je croise souvent au supermarché à côté, et en fait elle avait oublié son téléphone, qu'on pouvait pas appeler son fils pour l'aider faire les courses, et je sais qu'elle habite à 100 mètres, je lui ai porté les courses, elle m'a dit ah, merci beaucoup, mais alors que ça m'a pris 3 minutes, quoi, tu vois. Et je lui dis, mais en fait je suis ressorti là en me disant, bah écoute, j'ai fait une bonne action, c'est cool, tant mieux, j'ai pas perdu mon temps, j'ai perdu 3 minutes. Et en vrai, je suis ressorti là, j'étais bien, quoi, j'étais serein, j'étais heureux, parce que bah les remords, c'est les regrets, c'est éternel. Tu vois, tu pourrais te dire, j'aurais dû l'aider, j'aurais dû, mais non, bah, prends-le, ça prend 3 minutes dans ta journée, et en vrai, ça élimine ta journée, quoi. Et qu'après, ça devient une habitude. Imagine si tes enfants, ils vont faire ça après, ils vont aider les autres rapidement. C'est comme ça qu'on change le monde, quand tout le monde se met à faire la même chose, quoi.
C'est oui, bah oui. À part dire oui, j'ai pas d'autre. On va rester au petit, oui. Puis c'est important ce que tu as amené justement de rappeler au monde que c'est pas parce que tu as failé une fois que tu peux plus jamais le faire. C'est pas parce qu'une fois tu n'as pas donné 2, 3 minutes ou tu n'as pas fait ce geste-là que tu peux plus jamais le faire plus tard.
Non, on peut toujours. Tu sais, regarde, on était à une soirée, un side event, c'était très drôle, hein, la soirée Waldo's à Biarritz. Ils avaient invité plein de personnes, ils n'avaient pas en fait assez d'assiettes et de couteaux, tu vois.
Oui.
Et donc, il y avait une quinzaine de personnes qui étaient devant le buffet, et ils cherchaient à manger. Mais il y avait des gens qui s'étaient déjà servis, qui avaient fini de manger, quoi. Donc, moi, je suis parti leur voir pour dire, est-ce que vous allez vous resservir? Et ils m'ont dit, ouais, on va se resservir après. Je leur ai dit, ouais, parce qu'en fait, il y a une quinzaine de personnes qui attendent à manger, il n'y a pas assez de couverts. Donc, si vous voulez, moi, je vais prendre les couverts et je vais les nettoyer, comme ça, on donne à manger aux autres. Le gars m'a dit, ah ouais, mec, tu gères, parce qu'en fait, j'étais juste invité, tu vois. Mais je me dis, on a invité gratos à manger, on peut au moins faire à la vaisselle. Et donc, on commence à faire à la vaisselle, tu vois, et puis on donne à manger, enfin, donne la vaisselle à ceux qui attendaient, quoi. Et ce gars-là, qui était à la base posé sur son fauteuil, qui allait se resservir une deuxième fois, le lendemain, quand je l'ai recroisé à l'événement Web3, il m'a dit, ah, au fait, hier, j'ai fait un deuxième tour pour voir s'il n'y avait pas la vaisselle, j'ai fait comme toi, tu vois, parce que du coup, il s'est dit, bah tiens, si lui le fait, moi je peux le faire, quoi. Alors que c'était pas grand-chose, mais du coup, ça avait causé un petit peu une petite gêne à la base des organisateurs, qui dit, oh, on n'a pas prévu assez. J'ai dit, mais t'inquiète, on va faire la vaisselle, ça nous a pris 5 minutes. On s'est mis à trois et puis c'était réglé. Donc tu vois, il y a toujours une solution à un problème, et au final, une bienveillance, quand on a 1 plus 1 plus 1, ben, au final, ça. On a tous passé une bonne soirée et c'était top, quoi. Donc il faut pas avoir peur de le faire. La peur, c'est éphémère, les regrets, c'est éternel. Il faut vraiment se lancer et faire le bien autour de soi. Il n'y a rien de plus gratifiant au monde, très clairement.
D'habitude, c'est là où je conclus en disant un grand merci, Grégory, les yeux dans la caméra, pour ce moment, pour ce temps, pour tout ce que tu as amené comme réflexion et surtout d'être resté toi-même. Et que j'enchaîne en disant, je te laisse le mot de la fin, mais je trouve que ce que tu viens de dire est vraiment excellent comme mot de la fin. Donc, je te laisse le choix. Soit on garde l'autre partie,
On
soit tu
peut
peux
terminer sur
compléter.
ça, hein, c'est très bien. Mais de toute façon, le dernier mot, ça va être pour te remercier pour le podcast, parce que c'est une attitude, enfin, c'est une, pardon, une attitude, une attention particulière pour moi, donc j'apprécie particulièrement, et ça me fait plaisir.
Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.